j'ai animé en musique notre apéritif. Et maintenant, on va continuer avec une allocution avec Julien Vostine, qui est ouvrier à Peugeot Mulhouse. Je lui passe la parole.
Bravo! Bonjour à tous, bienvenue à notre fête. J'espère que vous passez un bon moment. Je vais vous parler du climat, mais plutôt du climat politique et social actuel. Les élections européennes à peine passées, le gouvernement de Macron a présenté ce qu'il appelle l'acte 2 de son quinquennat. Pour les travailleurs et les classes populaires, il n'y aura pas de changement. Au menu, c'est la continuation d'une politique anti-ouvrière qui se profile. Des cadeaux pour la bourgeoisie et le patronat d'un côté, tandis que l'addition à payer sera présentée, comme elle l'est depuis des années, aux classes populaires. Ainsi, depuis des semaines, le gouvernement prépare le terrain à de nouvelles attaques contre les retraites. Même si pour le moment il n'annonce pas clairement la couleur, entre l'âge de départ qui pourrait être encore repoussé, ou le nombre de trimestres qui serait augmenté, pour tous ces politiciens, une chose est sûre, ça devrait être aux travailleurs de se sacrifier. Il y a 6 millions de chômeurs, l'intérim bat des records, il ne se passe pas une semaine sans qu'un grand groupe n'annonce des licenciements. Mais à les écouter, il faudrait travailler encore plus. Pour le monde du travail, il n'y a absolument aucune raison d'accepter ces sacrifices. Depuis des années, les grandes entreprises battent record sur record de bénéfices. Et ces profits sont directement tirés de l'exploitation, de l'augmentation des cadences, de la baisse des effectifs. Dans les services publics, comme dans les hôpitaux par exemple, c'est une politique similaire qui est menée. Toujours moins de personnel pour en faire toujours plus. Le mouvement de grève qui touche en ce moment des dizaines de services d'urgence hospitalière dans le pays en témoigne. Alors oui, ce n'est pas l'argent qui manque dans cette société pour payer des pensions de retraite dignes à tous les travailleurs et pour faire en sorte de partir plus tôt au lieu de se tuer au travail. En se répartissant le travail, en embauchant les intérimaires et les chômeurs, en travaillant moins, il n'y aurait aucun problème de retraite. Mais cela voudrait dire s'en prendre au pouvoir des capitalistes sur la société. Cela voudrait dire remettre en cause leur mainmise sur l'économie et contrôler l'utilisation des fortunes qu'ils ont amassées pendant des décennies. Ce n'est évidemment pas la politique de Macron, pas plus que ça n'était celle de ses prédécesseurs. Avec la taxe sur les retraites, celle annoncée contre les allocations chômage est aussi significative de la politique qui est menée. Alors qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle vague de licenciements, de fermetures d'usines ou de magasins ne soit annoncée, et je pense notamment à General Electric à Belfort qui veut licencier plus d'un millier de travailleurs, pendant ce temps, que fait le gouvernement? Il ne touche pas à un seul cheveu des licencieurs, il fait même tout le contraire. Il s'en prend aux travailleurs qui sont au chômage, à ceux qui ont été virés, en durcissant les règles d'obtention des allocations et en promettant des sanctions contre ceux qui n'accepteraient pas n'importe quel travail, même sous-payé, même loin de chez soi. Le gouvernement mène toute une campagne visant à présenter les chômeurs comme des profiteurs n'ayant pas envie de travailler, vivant grassement de leurs allocations. Et tout cela coûterait, selon Macron, un pognon de dingue. Selon les chiffres du gouvernement lui-même, cette prétendue réforme permettrait d'économiser 3,4 milliards d'euros en 2 ans. C'est ça leur pognon de dingue? Mais en réalité, ces économies attendues sont très secondaires. L'objectif politique de Macron, il est ailleurs. En attaquant les chômeurs dans une période où les licenciements pleuvent, il envoie un signal à tous les travailleurs. Non seulement il ne s'opposera pas à la machine de guerre déclenchée par les patrons, mais en plus il annonce qu'il rendra la vie plus dure encore à tous ceux qui se retrouveront au chômage. Quant à ces 3,4 milliards économisés sur les allocations chômage, c'est environ ce que coûte au budget de l'État chaque année la suppression de l'impôt sur la fortune pour les plus riches, décidée par Macron dès le début de son quinquennat. D'ailleurs, cette suppression de l'impôt sur la fortune n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de cadeaux faits aux capitalistes et à la grande bourgeoisie. Il est impossible de chiffrer précisément le montant total des aides versées au patronat, mais elles sont en général évaluées à des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Cette classe capitaliste, elle vit sous perfusion permanente de fonds publics. S'il y a une classe sociale qui vit au crochet de la société et qui nous coûte un pognon de dingue, c'est bien elle. grande partie du budget de l'État lui est consacrée, et les conséquences en sont visibles par tous. Les fermetures de lits dans les services hospitaliers, les fermetures de maternités de proximité, les fermetures de classes dans les écoles, les suppressions de postes dans l'éducation nationale ou la fonction publique territoriale, c'est le résultat d'une seule et même politique qui consiste à tailler dans les services utiles à la population pour mieux subventionner le grand patronat. Alors quand on affirme que le gouvernement de Macron est un gouvernement de combat contre les classes populaires, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité sociale. Très vite après son arrivée au pouvoir, Macron a été haï par toute une partie des classes populaires. Et il ne l'a pas volé. Sa politique entièrement au service des riches, son arrogance et son mépris pour les pauvres ont cristallisé la haine autour de sa personne. Cela s'est notamment traduit par le slogan « Macron démission » que l'on a beaucoup entendu lors des manifestations du samedi des Gilets jaunes. Mais dans cette société, qui possède les usines, les banques, les entreprises ? Qui monopolise les richesses ? C'est le président de la République ? Évidemment non. En France, les 20 personnes les plus riches possèdent autant que 40% de la population. Le plus riche d'entre eux, Bernard Arnault, vient même d'empocher en une seule journée 2,5 milliards d'euros en spéculant à la bourse. Les décisions de ces grands patrons ont des répercussions sur toute la société, car ils tiennent l'économie entre leurs mains. Lorsqu'ils choisissent de fermer une usine et de licencier des milliers de travailleurs, ils peuvent ruiner des régions entières. Ils décident pour nous tous, mais ils ne sont pas élus au suffrage universel. Les grandes familles de la bourgeoisie, les Arnault, les Peugeot, les Bouygues ou les Pinault sont les véritables maîtres de la société, quel que soit le locataire de l'Élysée. Actuellement, c'est Macron, hier c'était Hollande ou Sarkozy, mais tous ont au moins un point commun. Lorsqu'ils accèdent aux responsabilités à la tête de l'État, c'est pour mieux occuper le rôle de serviteur des grands patrons. Alors le problème pour les travailleurs, les retraités, les chômeurs, ce n'est pas que Macron démissionne. Car qu'est-ce que cela changerait au fond ? Un autre prendrait sa place, et ensuite ? Penser qu'on peut combattre le système ou les inégalités en se limitant à réclamer le départ du président, c'est ouvrir la voie à bien des désillusions. Il ne s'agit pas de faire des pronostics sur la politique que pourrait mener tel ou tel autre politicien s'il accédait au pouvoir, mais il s'agit d'analyser le fonctionnement de la société capitaliste et d'en tirer des enseignements. Il y a quelques années, après la crise financière de 2008, il était à la mode chez les hommes politiques de dénoncer les excès du capitalisme et de prétendre qu'on pourrait le moraliser. Aujourd'hui, un de leurs credos, c'est de tout repeindre en vert et chacun y va de son petit couplet sur l'écologie. Mais demain, ça sera quoi ? La démagogie, les promesses, c'est le fond de commerce de tous ces politiciens, de Mélenchon à Le Pen. En visant soit le travailleur étranger, soit les politiciens de Bruxelles qui seraient la cause de la dégradation de nos conditions d'existence, ces politiciens cherchent surtout à exonérer la grande bourgeoisie de sa responsabilité dans la situation actuelle. C'est pourtant elle qui tire les ficelles. Expliquer qu'une infime minorité accapare les fruits du travail collectif, faire prendre conscience que pour changer notre sort, nous n'aurons pas d'autre choix que de s'en prendre au pouvoir de la bourgeoisie, et que dans cette lutte, les travailleurs ont un rôle déterminant à jouer, tout cela à lutte ouvrière, nous sommes les seuls à le dire. Tout comme nous sommes les seuls à dire que les élections n'ont jamais permis de changer le cours des choses, et qu'aucun changement radical pour les classes populaires ne viendra d'un simple bulletin de vote. Les idées que nous défendons ne vont pas dans le sens des vents dominants, dans le sens de ceux qui prônent la résignation aux travailleurs. C'est même tout l'inverse. Nous sommes dans une période de crise du capitalisme et de recul du mouvement ouvrier. Et les récentes élections européennes ont montré, une fois encore, que dans le monde du travail, c'est la désorientation politique qui domine. Macron, je l'ai dit, est haï parmi les travailleurs pour sa politique en faveur des riches et pour son arrogance. Certains politiciens comme Le Pen ou Mélenchon s'en sont servis lors des dernières élections. Ils les ont transformés en référendum anti-Macron. Et l'un des résultats, c'est que beaucoup d'ouvriers, de retraités, de chômeurs ont voté pour Le Pen, la liste qui était selon eux la mieux placée pour infliger un échec à Macron. Tous ces électeurs ouvriers qui votent Le Pen n'adhèrent pas à toute sa politique et ils ne voient pas le poison que son nationalisme et sa xénophobie représentent pour leur classe. Et comment le pourrait-il quand depuis bien longtemps, les campagnes des partis dits de gauche, que ce soit la France insoumise de Mélenchon ou le Parti communiste, sont-elles aussi empreintes de nationalisme et de patriotisme? Dans le monde ouvrier, le mot d'ordre du Parti communiste « Il faut produire français » a ouvert la voie à la préférence nationale de Le Pen. De fait, élection après élection, beaucoup de travailleurs aident ainsi à se renforcer un mouvement profondément anti-ouvrier qui alimente la division des classes populaires en fonction de leur origine ou de leur religion. C'est dans cette situation, et confronté à leurs résultats désastreux, que les leaders de la gauche ont de nouveau entonné le grand air de l'unité. Et, poussés par la nécessité de sauver les meubles aux élections municipales de l'an prochain, ils finiront peut-être par retrouver le chemin d'une union de la gauche. Eh bien, ça sera sans nous, parce que s'opposer à l'extrême droite, avec toutes les saletés réactionnaires et anti-ouvrières qu'elle charrie, et s'opposer à Macron, ne pourra pas se faire en resservant ce vieux plat de l'union de la gauche qui a empoisonné les travailleurs. On ne combattra pas les préjugés xénophobes ou les attaques contre les classes populaires avec un simple bulletin de vote, mais avec des luttes collectives, puissantes et déterminées, où les travailleurs de toutes origines se retrouveront au coude à coude pour défendre leurs intérêts communs. Mais ce bulletin de vote censé changer notre vie, les partis de gauche l'ont agité devant les travailleurs pendant des décennies et continuent à le faire comme si la lutte de classe entre le monde ouvrier et la bourgeoisie faisait partie des livres d'histoire. Eh bien, à tous les nostalgiques qui, justement, voudraient réécrire l'histoire, il faut rappeler qu'à chaque fois que les partis de gauche se sont unis derrière Mitterrand, Jospin ou Hollande et ont accédé au pouvoir, ils ont gouverné pour le grand capital, contre les travailleurs. Cette pression électoraliste a contribué à effacer les réflexes et les raisonnements de classe, au point que beaucoup de travailleurs ne sont plus gênés, aujourd'hui, de voter pour une millionnaire de Saint-Cloud. Alors, il faut en revenir au langage de classe. Profiter de chaque combat électoral pour affirmer que quand on est un ouvrier, on vote pour un programme ouvrier. Quand on appartient à la classe des exploités, on dénonce les exploiteurs et la classe capitaliste. La perspective ne peut pas être de reproduire sans cesse les mêmes illusions. Mitterrand et Hollande n'ont pas été des erreurs de casting. Le problème n'est pas de trouver le bon candidat de gauche qui deviendrait un bon président pour les travailleurs. Cela n'a jamais existé, ni en France, ni dans aucun autre pays. Dans cette société dominée par les lois du grand capital, tous ceux qui se hissent au pouvoir se condamnent à être pieds et poings liés, soumis à ses intérêts. La seule alternative est la suivante. Soit on accepte de gouverner dans le cadre de l'ordre bourgeois et on se soumet aux puissances de l'argent, soit on se prépare à les combattre avec la seule force capable de leur tenir tête, les travailleurs mobilisés et conscients de leurs intérêts. Ce qu'il faut reconstruire, c'est un parti ouvrier capable de mettre en avant les exigences des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Un parti qui se place du point de vue des exploités. Pas des intérêts de la France, pas des intérêts d'Airbus, de PSA ou d'Alstom, car il s'agit alors toujours des intérêts des grandes familles bourgeoises. Il faut un parti qui ne raconte pas d'histoire de sauveur suprême et qui dise clairement que le seul moyen de faire valoir les intérêts des travailleurs, ce sont leurs luttes collectives. Des luttes dont l'aboutissement ne peut être que le renversement de la bourgeoisie, l'abolition du salariat et la prise du pouvoir par les travailleurs. Au vu des résultats électoraux et de ce que pèse le vote de classe des travailleurs dans les urnes, cela peut paraître utopique. Mais il n'y a pas à s'en démoraliser. L'opposition qu'on nous présente aujourd'hui entre Macron et Le Pen est une fausse opposition. Cela va dans le même sens que la prétendue division gauche-droite qu'on nous a servie pendant des années. L'objectif reste toujours de masquer la véritable opposition dans la société, celle de classe. L'opposition entre ceux qui travaillent pour gagner leur vie et ceux qui vivent du travail des autres. L'opposition entre le monde du travail et la bourgeoisie. Tant qu'il y aura des travailleurs, il y aura des luttes. Et il y aura des femmes et des hommes, y compris des intellectuels, pour contester et combattre le capitalisme. Les résultats électoraux sont en grande partie déconnectés de cette réalité sociale. La colère qui s'est exprimée ces 6 derniers mois dans le mouvement des Gilets jaunes, avec ses revendications sur le pouvoir d'achat ou sur les inégalités sociales, ne s'est pas retrouvé dans les urnes. Et de la même manière, les mouvements sociaux ne sont pas forcément reliés aux scores électoraux. Les mêmes qui s'abstiennent lors des élections ou votent pour le Rassemblement national peuvent très bien se transformer demain en militant dans les contestations sociales. Et c'est aussi ce que l'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui se passe dans la rue et dans les entreprises est bien plus déterminant pour les travailleurs que n'importe quel vote. Mais même dans leur lutte, les travailleurs ont besoin d'une politique. Ils doivent comprendre qui est leur ennemi, où porter leur coup, avec quelles revendications. Nombre de luttes ont avorté ou ont été dirigées vers des impasses parce qu'il manquait aux travailleurs la conscience d'avoir à renverser tout l'ordre bourgeois. Alors il faut défendre une politique qui représente les intérêts immédiats et les perspectives des travailleurs dans toutes les circonstances. Dans les luttes elles-mêmes, dans le moindre débrayage, dans les grèves, dans les manifestations, mais aussi dans les combats politiques que sont les élections. Il faut la défendre avec la conviction que l'on peut être une minorité un jour et se retrouver le lendemain à plusieurs centaines de milliers dans la rue. Renforcer le courant qui place sa confiance dans la classe ouvrière est une tâche que nous poursuivrons envers et contre tout, car l'avenir de la société, et même de la planète dépend de la révolution sociale. Avant de passer à table, je vous propose de reprendre le champ de lutte des travailleurs, l'international.
Debout les armées de la terre, debout les forces de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase. Foule esclave, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Regroupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international.